une jeune fille qui est atteinte d'autisme. On en parlera tout à l'heure de votre histoire personnelle. D'abord, qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui pourraient ce soir être un peu choqués?
C'est pas un film, donc comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, on parle d'eugénisme. C'est un film sur l'abandon, sur la solitude, sur le désespoir, sur le manque de solutions. Ce sont des cas qui arrivent. C'est rare, mais ça arrive. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de raconter cette histoire en mutualisant un peu plusieurs histoires très différentes.
C'est inspiré de faits réels.
De faits réels, oui. Ouais. De plusieurs faits réels, en fait. Et je me dis que c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est un sujet difficile, mais dont il faut parler, et le véhicule du procès et de l'avocat qui va découvrir aussi cette situation, c'est un bon moyen de se poser les questions, parce que comme il le dit à un moment dans l'histoire, la justice ne sert pas seulement qu'à condamner ou à innocenter, elle sert aussi à comprendre, à poser les questions, à essayer de... On n'a pas forcément les réponses, on cherchera pas à les avoir, mais au moins identifier qu'il y a un problème et le reconnaître.
En tout cas, vous êtes un très bon avocat. On a envie de vous choisir. En tant qu'avocat, vous faites ça formidablement bien. Je le disais, vous avez vous-même une fille atteinte d'autisme qui est aujourd'hui, je crois, qui a aujourd'hui, je crois,
12 ans.
12 ans, j'allais dire 13 ans, 12 ans, qui s'appelle Angia et qui vous occupe énormément. Comment va-t-elle?
Très bien. Très bien. Elle me surprend tous les jours. C'est une petite guerrière. Elle est sortie de sa bulle, elle a été vers le langage, elle a été vers l'alimentation, elle a cessé, c'était un enfant, elle avait des crises de violence aussi, elle a franchi des barrières que je trouvais insurmontables, et aujourd'hui elle est à l'école en cinquième, alors elle est accompagnée d'un ESH, mais je suis surpris tous les jours par sa capacité à trouver des stratégies pour se faire des amis, pour être intégrée dans la société, elle a beaucoup de courage, et toujours une bonne humeur constante, donc c'est très inspirant pour moi. Ouais.
On en parlera de vos témoignages les uns les autres, et de l'importance aussi, c'est vrai que c'est fort ce que vous dites, de la progression qu'il peut y avoir chez les enfants autistes quand ils sont bien accompagnés, avec un bon accompagnement et de bons professionnels. Étienne Pau est également avec nous ce soir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le délégué ministériel de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, on verra ce que fait le gouvernement et comment on peut améliorer les choses et faire bouger les lignes. Anne-Sophie Pell, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'association Autiste Sans Frontières des Hauts-de-Seine. C'est une association de soutien et d'entraide pour les familles, justement. On en parlera. Et vous avez vous-même un fils autiste qui s'appelle Arnaud.
Oui.
18 ans.
Oui.
Il va bien?
Il va plutôt bien.
Bon. On pourra partager votre expérience aussi personnelle, peut-être,
volontiers,
sur la manière dont il a progressé. Florent Chapelle est également avec nous. Bonsoir, Florent.
Bonsoir.
Vous avez fondé avec Samuel Le Billon Autisme Info Service, qui est une plateforme d'aide et d'écoute au service des familles, des professionnels, mais aussi des personnes autistes. Et vous êtes aussi le père de Galad, voilà,
oui.
Qui a aujourd'hui également 18 ans, je crois.
Exactement.
Même question.
Il va mieux.
Comment va-t-il?
Mieux.
On vous avait reçu il y a quelques années, on avait beaucoup parlé de son évolution.
Il allait mal.
Il allait mal.
Ouais,
il va mieux aujourd'hui.
On va voir ça.
On partagera ça également avec vous. Séverine Leduc, bonsoir. Vous êtes psychologue, spécialiste des troubles du spectre autistique. Vous accompagnez des personnes autistes et également leurs parents pour les aider justement à comprendre et accepter, c'est important, cette différence. Et vous avez coécrit « Éloge des intelligences atypiques, pas comme les autres, plus que les autres », qui est aux éditions Odile Jacob. Steph Bonneau-Brié est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été diagnostiqué autiste de haut niveau, c'est ce qu'on appelle le syndrome Asperger, et vous êtes vice-présidente et cofondatrice de l'association OTOP et consultante et formatrice spécialisée dans les troubles du spectre autistique. On peut préciser la raison pour laquelle vous portez des lunettes?
Là, moi, j'ai une hypersensibilité sensorielle.
Ouais. C'est-à-dire, il y a certaines couleurs que vous ne tolérez pas?
Il y a des couleurs, il y a une couleur en particulier qui me provoque vraiment. C'est pas une question de j'aime ou j'aime pas. Hein.
Ouais.
On a tous des couleurs qu'on aime, mais le rouge vermeil, un rouge vif. Donc là, quelque part, c'est pas ça qui m'oppresse ici, parce que vous avez plutôt un ton dans les bordeaux, donc il y a la limite. Par contre, les spots, et ça, je le sais, quand on vient, sur des plateaux, il y a quelque chose d'assez agressif, et comme j'ai une épilepsie partielle en plus, c'est quelque chose qui se cumule.
Tout va bien? Là, ce soir.
Merci.
Bon, très bien. Merci infiniment d'être avec nous et de partager votre expérience et votre témoignage. Peut-être une première réaction, Anne-Sophie Pell, sur ce qu'on a vu et sur ce film. Florent nous avait expliqué il y a quelques années à quel point il avait pu être bouleversé par la manière dont les autistes étaient perçus dans la société et par la manière aussi dont les parents n'étaient pas suffisamment accompagnés. C'est également ce que vous avez vécu, vous?
Ah oui, ça a été très compliqué. Et c'est toujours très compliqué, d'ailleurs.
Vous dites souvent, c'est une succession de combats.
c'est une succession.
Quand on en remporte un, il y en a un autre qui commence.
Quand il n'y en a pas plusieurs à la fois, ouais. Et, le diagnostic, c'est déjà un combat. C'est
et des petits bonheurs permanents aussi.
C'est des bonheurs en permanence parce qu'ils font des progrès où personne ne les attend en réalité. Donc on arrive à avoir des progrès qui pour nous sont énormissimes. Il mange sa première pizza, c'est champagne. Mais pour un autre parent, ce combat-là, ce n'est pas un combat. Pour nous, c'est déjà un vrai succès en réalité.
Florent Chapelle, vous nous avez dit en préparant cette émission, parce qu'on vous a tous demandé un peu votre réaction par rapport à ce film que vous avez pu voir en avant-première, à quel point cette histoire inspirée de faits réels vous avez mis dans une immense colère. Une colère, pourquoi ?
En fait, je la connais. Alors, je ne sais pas si, Samuel, tu t'es servi de cette histoire dont on avait entendu parler à l'époque. Déjà, il y a quelques années, c'était une maman qui avait poussé son fils du haut d'une falaise. Elle était très âgée, son fils était âgé aussi, elle était abandonnée par le système, elle était seule, et après avoir poussé son fils du haut de la falaise, elle est allée se rendre à la gendarmerie. C'est un peu la même histoire. Moi, cette histoire m'avait mis dans une colère, je me suis dit, quand un système en vient à ce qu'une femme pousse son enfant du haut d'une falaise, c'est qu'il y a un truc, c'est plus de l'infanticide, c'est qu'il y a tout un système maltraitant qui s'est mis autour d'elle. Alors, c'est pas comme ça partout, et j'enjoins tous les gens de ne pas en arriver là. Mais quand vous avez passé 30 ans aux côtés d'un enfant et qui continue à vous battre, qui ne dort pas, qui vous mord, à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire et surtout vous dites, mais qu'est-ce qu'il sera après mon départ? Ouais. Puisque personne n'en veut. Donc oui, c'est le sens de ce film. Et oui, ça m'a mis dans une grande colère à l'époque. Et je pense que ça a été une des motivations de mon combat.
Ce qui est pas facile à comprendre pour les gens qui nous regardent, c'est le désespoir dans lequel peuvent plonger ces familles. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça avec des mots simples?
Les gens se rendent pas compte. Ce que c'est, je me souviens d'une militante qui m'a raconté que son enfant ne dormait pas. Ça arrive souvent, les troubles du sommeil. Hein. Ne dormait pas et dormait 1 à 2 heures par nuit, à condition d'être dans un bain, à une température spéciale. Donc elle faisait couler un bain. Vers 2 heures du matin, elle arrivait à mettre son enfant dans le bain et elle s'allongeait à côté de la baignoire et elle dormait pendant 1 heure. Donc elle ne dormait qu'une heure par nuit. Le reste, c'était 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Donc quand on vous prive de sommeil, quand on vous prive de loisirs, quand on vous prive de votre vie professionnelle, de votre vie familiale, que votre mari part, 80% des maris partent, et que vous êtes tout seul face à ça, quand tout le monde vous a abandonné, moi j'ai de la chance, hein, je suis vraiment un super privilégié dans le 92 et puis avec toute une équipe autour de moi, mais il y a plein de parents qui sont complètement abandonnés seuls. D'où l'importance d'autisme infantile, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, il y a une violence à l'égard de ces familles qui est inouïe.
Ça vous est arrivé les uns et les autres, peut-être Samuel en premier, de craquer?
Non, parce que peut-être j'ai vu ma fille évoluer et j'ai trouvé... j'ai jamais été abandonné. J'ai pas vécu une situation d'abandon. J'ai un meeting qui me permet de connaître beaucoup de gens et toujours d'avoir des relais, des réseaux, de pouvoir parler, d'être aidé. En l'occurrence, Florent est la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai appris l'autisme de ma fille. Et tout de suite, il m'a donné une série d'adresses, de personnes à rencontrer. J'ai été sur Paris, ce qui aide aussi à rentrer facilement. Donc je suis pas un bon exemple là-dessus. Mais par contre, avec Florent, on a rencontré beaucoup de gens qui sont dans le désarroi, oui.
Ça, c'est une quotidien. Ça vous est arrivé de craquer?
Oui. Oui, régulièrement. Mais pas longtemps, parce que ça sert à rien de craquer.
Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? Qu'est-ce qui vous passe par la tête?
Alors, à ce moment-là, le craquage, je pense qu'il est nécessaire. C'est qu'il y a un trop-plein, vous avez énormément de gens ce jour-là qui vous ont expliqué que votre enfant il ira nulle part ou qu'on ne sait pas pourquoi il est à cet endroit-là et que c'est pas sa place. Donc ce soir-là vous êtes désespéré. Alors j'ai cette chance, c'est que je rebondis très vite. Et donc dès le lendemain, je vais trouver une solution et je vais reprendre des contacts. Et c'est ce que disait Samuel Florent, c'est que si vous êtes entouré et que vous avez réussi à avoir un réseau de personnes qui peut vous répondre, on se sent presque privilégié d'aller chercher l'information et de pouvoir rebondir.
Steph, ça vous est arrivé, vous, d'avoir, par le passé, quand vous étiez plus jeune, enfant, un comportement qui a pu être difficile à supporter pour votre entourage?
Je ne pense pas que j'étais... Bon, déjà, moi, je n'étais pas dans la même réalité que cet enfant qui est dans le film. Donc, c'est important de bien distinguer. Il y a des réalités qui sont différentes. Hein. Le spectre est extrêmement large. Moi, je faisais quand même partie de ces enfants qui, à l'époque, avaient, oui, des comportements problèmes, mais qui n'engendrait pas, on va dire quand même, des accès de désespoir, même si ça a pu questionner. Et ma maman notamment a pu pleurer, se questionner sur mon avenir parce que j'étais, on employait les termes à l'époque, d'une enfant difficile, de se poser des questions sur qu'est-ce que j'allais devenir, mais dans un autre registre.
Oui, juste pour être concret, quand vous dites j'ai pu avoir des comportements, vous pensez à quoi par exemple?
Moi j'avais une hyperactivité qui dominait, donc l'hyperactivité aussi, hein, on parlait du sommeil, on parle de l'hyperactivité. Des enfants qui sont comme ça, en état turbulent, on dit à l'époque de la turbulence, j'ai un pédiatre qui a prononcé hein, le mot d'hyperactivité.
Comment vous avez organisé, vous, votre quotidien et votre vie aujourd'hui?
J'ai des aides humaines, moi. J'ai des aides humaines pour mes gestes de la vie quotidienne, parce que chez moi, prendre une douche, c'est pas possible. Voilà. J'ai beaucoup besoin d'impulsion sur tous mes gestes de la vie quotidienne, parce qu'en fait, je ne ressens pas mes perceptions internes. Et ça, c'est très, très
important. Ça veut dire quoi, ça, de ne pas ressentir ces perceptions?
Ça veut dire que je ne ressens pas la chaleur, par exemple. Je ne ressens pas le sommeil. Je ne ressens pas la faim. Je ne ressens pas la soif. Je ne ressens même pas les sensations pour faire mes besoins personnels. Donc, du coup, sur ce plan-là, voilà.
Vous ne ressentez pas la fatigue? Vous ne ressentez
non,
pas la faim?
Non. Et quand j'ai longtemps cru que mon corps ne fonctionnait mal. Et en fait, mon corps fonctionne bien. Mais en fait, les signaux qu'il m'envoie ne sont pas bien traités, en fait, par mon cerveau. Par exemple, quand on va en Vangargou, je cherche mon portable parce que je pense qu'il fibre. Donc, voilà. Et puis, quand je suis pris par une activité également, je suis extrêmement engagée, mais comme ça peut arriver parfois aux gens ordinaires, à part que ce qui fait à un moment donné une situation de handicap aussi, c'est l'intensité que ça peut prendre. Parce qu'à un moment donné, on peut se laisser mourir devant un écran d'ordinateur si personne ne vient taper à votre porte. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai essayé des aides techniques. Hein. Oui, j'ai mon timer, j'ai des applications, parce que mon niveau de fonctionnement me permet d'accéder. Donc,
pour que chacun comprenne, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise quand manger?
Qui vienne m'impulser, en fait, pour le faire. Parce oui. que je suis tout à fait capable, à mon niveau, d'avoir des agendas, des Google, des sonneries, des vibreurs, des aides techniques. Mais mon cerveau est complètement imprégné, absorbé par une tâche autre. Je suis quelqu'un de très curieux, passionné, je suis dans des ouais. projets, je
fais des recherches. Quand vous dites impulser, ça veut dire qu'il faut vous déconcentrer ou en tout cas vous.
Déconnecter, je
dirais. Vous déconnecter et vous impulser l'idée de faire à manger
C'est pas l'idée, c'est peut-être aussi un peu la stimulation vraiment et la motivation parce que vous savez, les gestes de la vie quotidienne, vous marquez, vous, sur votre agenda, manger, pipi, la douche, non. Et ça prend du temps, hein, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, certaines choses. Et en même temps, ça peut sembler complètement incongru parce que vous dites vous êtes avec une personne en situation de handicap qui sait gérer un projet de recherche participative et qui sait pas prendre sa douche. Alors là, les gens ils comprennent pas. La MDPH encore moins.
La maison de
handicap. Il y a quelqu'un chez vous en permanence?
En tout cas, quotidiennement.
En tout cas, vous en parlez très très bien et ça permet aussi de comprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Parler, je dis souvent que si vous voulez une représentation visuelle de fait ce que je dis, pas ce que je fais, vous
prenez. Et vous manquez pas d'humour et d'ironie aussi, c'est assez, assez plaisant. Étienne Pau, quand vous vous êtes lancé dans cet engagement, j'allais dire, et du rôle qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce que vous imaginiez à quel point il y avait des drames et ce sentiment d'abandon de la part des familles et le travail que ça représente et l'amour aussi que ça représente d'accompagner un enfant qui a des troubles autistiques?
Alors, tout d'abord, je tiens à saluer les témoignages autour de cette table, d'abord des personnes concernées, mais aussi des familles. Je pense que c'est quelque chose dont j'avais déjà la perception, parce que je suis médecin de formation, et avant d'être délégué interministériel...
Il y a plein de médecins, oui. qui ne connaissent pas tout ça.
Mais on
va en parler, parce que les chiffres sont assez sidérants, d'ailleurs, de ce point de vue-là.
Mais je le précise, alors j'étais médecin auprès de personnes concernées par un trouble du spectre de l'autisme, notamment sévère, avec un trouble du développement intellectuel associé. Donc j'étais confronté, comme de nombreux professionnels, à des familles qui étaient en difficulté, à des familles qui étaient en colère, à des familles qui, globalement, m'exposaient, me montraient que le système pouvait connaître des difficultés, qu'il y avait des trous dans la raquette pour l'accompagnement, pour la prise en charge, pour le diagnostic précoce, et on en parlera. Ce qui est certain, c'est qu'une fois que je suis devenu délégué interministériel, je pense que j'ai vu encore plus l'étendue de ce phénomène. Je continue à recevoir tous les jours des courriers, à avoir des familles tous les jours au téléphone, qui globalement m'expose la difficulté aujourd'hui d'être parent d'un enfant autiste.
Je sais qu'ils sont et qu'elles sont nombreuses à nous regarder ce soir, comme à chaque fois pour ces grandes soirées consacrées à cette problématique. Anne-Sophie Pell, pour qu'on comprenne bien le désarroi qui est aussi le vôtre parfois et de ses familles, je voudrais, si vous me le permettez, qu'on revienne sur votre histoire personnelle. Je crois que quand votre enfant a été diagnostiqué, il avait 3 ans.
Oui.
C'est ça?
Après un an et demi de combat.
Un an et demi. Pourquoi de combat?
Pourquoi de combat? Parce que j'étais peut-être la seule à voir les signes de mon enfant. J'avais beau demander à tout le monde pourquoi est-ce qu'il ne réagissait pas comme tout le monde.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quoi les signes d'abord?
Arnaud ne parlait pas, Arnaud se balançait, Arnaud se mordait, Arnaud ne dormait pas, Arnaud ne mangeait rien. Et donc, les réponses étaient systématiques. Votre mari habite à l'étranger, le petit frère est déjà là, arrêtez de chercher madame, et puis apprenez à vous en occuper. On m'a envoyé faire une psychanalyse parce que probablement j'avais dû déprimer.
Encore un autre sujet qui existe encore trop, hein, le coup de la psychanalyse où on...
C'était ma faute.
Où on oriente vers la responsabilité de la mère, voilà, pour dire les choses.
Et puis par chance, j'ai pu faire le diagnostic de mon fils par la télé.
Par la télé?
Par la télé.
Par France 2?
Par France 2, oui, exactement.
C'est vrai?
Oui, et on a été nombreux. 23 octobre 2008, envoyé spécial. Francis Perrin fait une lettre blanche qui était dédiée au diagnostic de son enfant. Et là, moi qui ne regarde jamais la télé, ce soir-là, j'étais devant la télé, donc quelque chose m'avait poussé. Et je regarde, et la première image, j'ai l'impression de voir mon enfant.
Ah oui.
Moi qui ne pleure jamais.
Ah oui, j'ai vu la même chose. Alors moi, je l'ai vu un peu en différé, je l'ai vu un tout petit peu après, parce qu'il doit être un peu plus âgé, mon fils. Mais j'ai fondu en larmes. On s'est dit avec ma femme, bon, maintenant, on fait quoi? Ça y est, on le savait. Alors qu'on avait déjà vu des psychologues, des psychiatres, des gens, on avait perdu notre temps à l'hôpital, et là, on a vu ça, on s'est dit, ah ouais, ok, bon, ça y est, maintenant, on sait.
Alors, Anne-Sophie Pell, on est en 2008, c'est ça?
Oui.
Quand vous voyez cette émission de télévision, que vous comprenez le diagnostic de votre fils, vers qui on se tourne à ce moment-là?
Eh ben, j'ai passé 3 semaines à appeler l'intégralité des associations qui existaient à l'époque pour trouver une femme formidable qui m'a répondu, qui a trouvé des professionnels à droite, à gauche et qui a pris les rendez-vous pour moi pour avoir un vrai diagnostic. Et le diagnostic est tombé un mois et demi plus tard.
Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Un soulagement.
Un soulagement.
Un soulagement parce que ça me donnait un diagnostic et qui dit diagnostic dit je vais trouver entre guillemets une thérapeutique. Je vais trouver les clés qui vont pouvoir aider mon enfant. Et les progrès ont été fulgurants. On a enfin mis ce qu'il fallait à côté de lui. Et alors les mots ne sont pas apparus tout de suite, mais on a réussi à lui apprendre avec des images à dire qu'il n'était pas d'accord. Il pouvait dire non avec une image. Et donc les crises se sont arrêtées 3-4 ans plus tard. Petit à petit, alors elles ont diminué, enfin assez rapidement. On a vu un effet sur tout. On a réintégré certains aliments parce qu'on nous a guidés sur comment est-ce qu'on pouvait intégrer les aliments. Il a commencé à empiler des cubes, ce qu'il refusait de faire. Il a accepté de tenir un stylo au bout de 6 mois. Donc, non, ça a été un vrai soulagement d'avoir ce diagnostic.
Vous avez été obligé d'arrêter de travailler?
Oui.
Pendant combien de temps?
6 ans et demi.
6 ans et demi. En préparant l'émission, vous nous avez dit quelque chose de très fort. Vous nous avez déclaré la femme dans le film, je la comprends. C'est horrible, mais je la comprends.
Oui. Moi, ma première réaction quand j'ai su que c'était effectivement de l'autisme et que donc il n'en guérirait pas, ça a été. J'ai eu 2 questions. Comment je vais faire avec ses frères? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là? Et depuis, on est sans arrêt en train de préparer. De maximiser son autonomie pour que si un jour on disparaît tôt ou tard, en espérant que ce soit le plus tard possible, il puisse y avoir des relais. C'est quelque chose qui ne me quitte jamais.
Samuel, vous avez reçu ici pour parler de cette thématique lors d'un précédent film que vous aviez fait qui était aussi formidable. Et on avait beaucoup parlé de votre livre, Un bonheur que je ne souhaite à personne, qui est paru fin 2018 aux éditions Flammarion. Ça résume à peu près tout, le titre.
Oui,
parce que vous aussi, vous avez dû bouleverser votre vie. Enfin, c'est un changement considérable apprend le diagnostic de son enfant.
Soit on fuit, soit on rentre dans le combat. ce que disait Florent avec les pères qui disparaissent, mais c'est évidemment et toutes ces petites victoires qu'on célèbre et qui sont des bonheurs très très forts. On a un lien particulier avec la fragilité, avec on a le sens de des gens qui sont plus fragiles. On développe plein de sens comme ça qui sont pas habituels dans notre société extrêmement compétitive. On a une autre mesure des nécessités, de ce qui est vraiment important.
Il y a plein de parents qui disent ça m'a rendu meilleur.
J'espère.
Parce que c'est votre cas.
J'espère que ça va faire sortir de moi ce qu'il y a de plus intéressant, ce qu'il y a de meilleur. Mais moi, en tout cas, j'ai mon métier, on vit avec le succès, et le succès, je le regarde de façon un peu relative aussi, tout en sachant que c'est important, puisqu'on est, on a besoin du succès pour faire d'autres films, mais est-ce que, en tout cas, c'est pas une condition du bonheur. Oui, ça vous transforme, mais ce combat vous transforme, le regard de notre société, les laisser pour compte, la fragilité de notre existence, c'est tout ça qu'on mesure, tous les jours. Et évidemment, qu'est-ce qui se passera quand je serai plus là? Évidemment, c'est la question qui nous accompagne tous les jours.
On va l'évoquer également tout à l'heure. Séverine Leduc, merci d'avoir patienté. Vous êtes psychologue. Peut-être une question simple d'abord. Comment se fait-il qu'on entend encore trop souvent des parents nous raconter « Oui, on m'a orienté vers un psychanalyste. Oui, on a dit le lien avec la mère. Ça peut être la responsabilité aussi de ces troubles autistiques. » Comment est-ce qu'en 2014, on en est encore là?
Alors, on est en 2024. C'est ça le pire.
En 2024.
Il faut quand même reconnaître que les choses ont quand même énormément évolué ces 20 dernières années. Ce type de discours, les enfants de Florent et de Anne-Sophie ont déjà 18 ans. Donc, c'est un discours qu'on entendait encore à l'époque, qu'on entend de moins en moins, mais vous avez raison, il existe encore dans la bouche de certains professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est un trouble du neurodéveloppement qui n'a pas du tout de cause de relation mère-bébé. Hein, on sait aujourd'hui que c'est une prédisposition génétique avec un facteur environnemental qui va venir déclencher en fait la réaction, mais in utero. D'accord. Donc, ça n'est pas les vaccins non plus, comme on a pu l'entendre, puisque vous n'êtes vacciné qu'une fois que vous êtes né. Donc, c'est une formation du cerveau qui va se faire un petit peu différemment. C'est ce qu'on appelle une neuroatypie. Le cerveau va traiter les informations environnementales de manière un petit peu différente.
Pourquoi ça semble encore si compliqué, Florent Chappelle, ce diagnostic?